1, 2, 3, 4, je compte jusqu'à 5. Une histoire en 5 minutes, proposée par Isabelle Fosset.
Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes.
C'est vrai?
Essaie, et détends-toi.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis.
Youpi!
Et vous serez un ours très bien léché.
Youpi!
Bel organe!
Merci!
Toc, toc, toc. Je peux entrer? J'ai une histoire à vous raconter. La deuxième partie de « Comment je suis devenu un héros » de Anne-Laure Bondou. Le samedi après-midi, j'aide souvent mes parents à la mercerie. Je trie les paquets, je range les bobines de fil, des petites choses comme ça. Ce samedi-là, ma mère m'a confié une enveloppe. « S'il te plaît, Romain, cours à la banque avant la fermeture, il me faut de la monnaie. » J'ai attrapé l'enveloppe et j'ai filé en courant jusqu'à la banque. Dans le hall, il n'y avait presque plus de clients. Je me suis approchée du guichet. À ce moment-là, Philibert a surgi de derrière le comptoir. « Tiens, c'est ce nul de Romain. Qu'est-ce que tu fous dans la banque de mon père » a-t-il demandé hargneusement. Aussitôt, M. Brock a sorti la tête de son bureau et a fulminé contre son fils. « Philibert, ce n'est pas un terrain de jeu ici. Si tu n'es pas assez grand pour comprendre ça, tu rentres à la maison illico. » Philibert a battu en retraite pendant qu'une dame s'emparait de mon enveloppe. J'attendais qu'elle me donne des rouleaux de monnaie quand la porte a claqué derrière moi et soudain, un homme a crié. « Oh les mains ! C'est un hold-up !» Mon cœur s'est arrêté de battre. Mes jambes ne me tenaient plus. « Tout le monde à terre, ou je tire !» a hurlé l'homme. Les employés de la banque ont crié. Comme dans les films, je me suis aplati sur le sol. L'homme nous a demandé de nous regrouper derrière le comptoir. J'ai rampé sans lever la tête. Mon estomac faisait des vrilles dans mon ventre tellement j'avais peur. Derrière le comptoir, je suis tombée nez à nez avec Philibert, blanc comme un linge. Un silence terrible régnait dans la banque. J'entendais seulement le tic-tac de la pendule au-dessus du guichet, comme si une bombe allait exploser. Et puis l'homme s'est remis à parler. « Donnez-moi l'argent, et vite !» À ce moment-là, j'ai ressenti un déclic. Cette voix ne m'était pas inconnue. J'ai relevé la tête et j'ai tordu le cou pour voir l'homme. Philibert m'a donné un coup de coude. « T'es dingue, il va te tuer !» Pendant ce temps, M. Brock était allé chercher la caisse et revenait vers le comptoir à pas très lent. Il transpirait de peur. L'homme s'est exclamé. « Tu te fiches de moi ? Je veux des billets, des sacs de billets !» Et là, j'ai su. Sans réfléchir, je me suis exclamé. « C'est moi, Romain, je suis là, derrière le comptoir. Ne tire pas, ne tire pas !» Sous le regard horrifié de Philibert, je me suis relevé les mains en l'air. L'homme se tenait au milieu du hall, un revolver à la main. Il avait un passe-montagne sur la tête. J'ai bredouillé. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Réfléchis. » Si tu vas en prison, à qui je pourrais parler quand j'aurai des ennuis ?» L'homme a retiré son passe-montagne. La figure rouge de Gégé est apparue au grand jour. Il m'a dévisagé, honteux, puis il a dit « Fiche le camp d'ici, bonhomme. Laisse-moi faire mon travail. » J'ai secoué la tête et j'ai laissé tomber mes bras le long de mon corps. « Tu ne peux pas vraiment faire ça, Gégé. T'as pas le droit. » Autour de nous, les employés commençaient à relever la tête, stupéfaits. Quant à M. Brock, il semblait transformé en statue. « C'est trop tard !» a murmuré Gégé en baissant son revolver. J'ai fait un pas dans sa direction. Je voulais le prendre par la main, l'emmener dehors, faire comme si tout ça n'avait pas existé. Juste une plaisanterie d'un goût douteux, un jeu idiot. Mais soudain, j'ai entendu des sirènes de police dans la rue et des crissements de pneus. Gégé a pointé son arme vers Monsieur Brock. « C'est vous ! Vous avez appelé la police, pauvre mec !» Gégé tremblait de rage. Il avait les yeux mouillés. J'ai fait un pas encore en avant. Derrière le comptoir, Philibert s'est mis à pleurer en suppliant. « Ne tirez pas sur mon père, je vous en supplie !» Je fixais Gégé droit dans les yeux. J'avançais vers lui et je ne voyais plus rien d'autre que lui, son arme, son visage rouge. J'ai posé ma main sur son épaule. « Viens !» et je dis. « On s'en va !» Gégé s'est brusquement détendu. Il est devenu mou comme un chiffon. Le revolver est tombé à terre en faisant un bruit de plastique cassé. « C'était même pas un vrai !» J'ai ouvert la porte et j'ai aidé Gégé à sortir. Dans la rue, les policiers planqués derrière leur voiture nous visaient avec leurs armes. Et là, ce n'était pas des jouets. J'avais l'impression que la ville tout entière retenait son souffle. C'était comme si nous marchions dans un rêve. Gégé a bafouillé. Tu vois, t'aurais pu avoir des sacs de billets. On aurait vécu comme des princes, toi, moi et tes parents. J'ai avalé ma salive. J'avais la gorge serrée et le cœur gonflé de larmes qui n'arrivaient pas à sortir. J'ai réussi à articuler doucement. Je vais leur dire que tu n'es pas un voleur. Je vais tout leur expliquer, t'inquiète pas. Quand les policiers ont compris que Gégé n'avait plus d'armes, ils se sont précipités sur lui. Je me suis cramponnée à son bras en criant qu'il était innocent, que c'était une blague. Mais les policiers n'avaient pas l'air d'avoir le même sens de l'humour. L'un d'eux m'a secoué en criant « Une blague ? Et puis quoi encore ? On n'est pas le 1er avril !» Ils n'ont pas pu nous séparer et nous sommes montés tous les deux dans le fourgon. Quand nous avons démarré, j'ai aperçu sur le trottoir Philibert et son père, pétrifiés, qui nous regardaient partir dans le hurlement de la sirène. Mes parents sont arrivés au commissariat, livides, incrédules et catastrophés. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ils pleuraient. Ça m'a fait mal de les voir comme ça. Ma mère ne cessait pas de répéter en reniflant. « C'est un cauchemar, mon Dieu, mais que s'est-il passé ?» Ils avaient eu tellement peur. Moi, je pleurais aussi. Et Gégé se mouchait, ça n'en finissait pas. Il hoquetait. « C'est pas de ta faute, bonhomme. Je te remercie de m'avoir empêché d'aller jusqu'au bout. C'était une connerie. Un moment de... » Il était piteux. À le voir dans cet état, je me disais qu'il n'aurait pas pu faire de mal à une mouche. Le commissaire nous a rejoints. Tout le monde s'est calmé peu à peu. Mes parents se sont assis à côté de moi. Le commissaire a commencé par me féliciter pour mon courage et il a ajouté que j'avais eu de la chance. « Gégé n'est pas méchant !» Et je dis « Il ne faut pas l'envoyer en prison, je le connais bien. Il fait la manche devant le supermarché, tout le monde l'aime bien. Il voulait juste s'en sortir, il voulait se transformer en prince. » J'avais débité cette défense d'une seule traite sans reprendre mon souffle. Le commissaire qui m'avait stoppé d'un geste de la main a pris un air ennuyé. Il m'a expliqué d'une voix forte et sévère que Gégé avait fait une chose très grave, qu'on ne pouvait pas effacer ça d'un revers de main. « Il sera jugé, » ajouta-t-il. « Si tu veux vraiment l'aider, tu laisses faire son travail à la justice. » Puis sa voix s'est un peu adoucie. « Tu pourras témoigner en sa faveur. Si ce que tu dis est vrai, ça lui servira. » Le lundi matin, j'avais ma photo en première page du journal. Dans l'article, le père de Philibert racontait que je lui avais sauvé la vie et que j'étais un garçon formidable. Quand je suis arrivée à l'école, les élèves se sont attroupés autour de moi. J'étais devenue une sorte de héros. Philibert est venu me serrer la main longuement, comme font les ministres à la télévision, et il m'a dit « Je me suis trompé sur toi, Romain. Tu n'es pas un nul. Bravo pour ton courage. » Il a fouillé dans sa poche et m'a tendu un bonbon et une pièce de 2 euros. J'ai souri. Avant de rentrer en classe, Philibert a ajouté « Mon père a téléphoné à tes parents pour vous inviter à dîner ce soir. Je te montrerai ma chambre. » En effet, le soir même, mes parents et moi soignons chez les Brocs. Philibert a ouvert et tandis que les adultes prenaient l'apéritif sur la terrasse, il m'a entraîné dans sa chambre. Nous avons joué un moment sur sa console et soudain, Philibert m'a demandé « Tu es toujours amoureux de Magali ?» J'ai rougi. « T'as peut-être des chances, » a-t-il murmuré. « Tu crois ? J'en suis presque sûre. Dès le premier jour, j'ai remarqué que Magali t'aimait bien. J'étais même un peu jaloux. J'étais tellement étonnée que j'ai perdu toutes mes vies du niveau 4. » Quand nous sommes revenus sur la terrasse, mes parents rigolaient avec ceux de Philibert. L'air était doux, ça sentait bon. Je me disais que peut-être Monsieur Brock voudrait bien prêter de l'argent à mes parents pour qu'ils gardent la mercerie. Je me disais que peut-être Magali fera attention à moi. Je me disais que peut-être Gégé irait pas en prison. En tout cas, pas trop longtemps. « À quoi tu penses ?» m'a murmuré Philibert. « Je pense que la vie est drôle, ai-je dit. On a des malheurs et des bonheurs en même temps. » Philibert a hoché la tête. « Et parfois, les ennemis deviennent des amis. » Il a posé sa main sur mon épaule et nous sommes passés au salon. « J'espère que vous aimez les plats sucrés salés ?» nous a demandé le père de Philibert en apportant un magnifique goulet à l'ananas. J'ai souri. « Sucré salé ?» C'était exactement le goût de ces dernières journées. Cric-crac, j'ai remis l'histoire dans mon sac.
Supercalifragilisticexpialidocious.
1, 2, 3, 4, je compte jusqu'à 5. Une histoire en 5 minutes, proposée par Isabelle Fausset.
Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes.
C'est vrai?
Essaie. Détends-toi.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis.
Youpi!
Et vous serez un ours très bien léché.
Youpi!
Bel organe.
Merci.